Pour expliquer le rôle de mai 68 dans la grande saga de l'écologie, il faut d'abord dire en quoi 68 a été quelque chose de tout à fait nouveau et novateur dans l'histoire de l'humanité, on peut le dire comme ça.
Yves Frémion, écrivain, journaliste, critique de BD, ancien député européen vert et actuellement conseiller régional d'Île-de-France, auteur de « L'histoire de la révolution écologiste » publié aux éditions Webec, disponible chez Ecodif et dans toutes les librairies.
La première chose, c'est que pour la première fois, un mouvement qu'on pourrait dire insurrectionnel, un mouvement alternatif, un mouvement révolutionnaire entre guillemets, s'est produit à l'échelle du monde. C'est très 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 nouveau dans l'histoire puisque même dans les années 20, où il y avait eu un peu une esquisse d'un grand mouvement culturel qui atteignait plusieurs pays autour du futurisme, de Dada, du surréalisme, etc., et où il y avait une vraie revendication révolutionnaire derrière, ça n'avait jamais pris cette forme-là. En 68, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un mouvement qui tape à la fois tout l'Occident, que ce soit en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Espagne, mais aussi les pays de l'Est. Rappelons quand même qu'en janvier 68, juste avant, il y a le printemps de Prague, par exemple, qui est la première grande secousse sérieuse qui va ébranler le monde communiste, mais aussi dans beaucoup de pays du tiers-monde. Il se passe des choses en Afrique, il se passe des choses en Asie. Au Japon, par exemple, il y a un mouvement en 68 extraordinaire. Donc, pour la première fois, on a quelque chose à l'échelle planétaire. Il faut bien mesurer que ça a des conséquences évidemment positives, très intéressantes, mais des conséquences un peu différentes, c'est que ça ouvre intellectuellement, culturellement, la voie à l'idée que désormais l'ensemble des problèmes doivent se régler à l'échelle de la planète. Pour l'instant, tout ce qu'on en a eu comme conséquence concrète, c'est la mondialisation des échanges commerciaux, ce qui n'est pas forcément ce qui était visé à l'époque par les 68ards. La deuxième changement radical, c'est qu'on peut dater de mai 68 le début de l'effondrement des grandes idéologies qui menaient le monde. Alors, il faut expliquer, pour le communisme, c'est relativement facile parce que maintenant on a le recul. Et on voit bien qu'en 68, la contestation à égalité du capitalisme et du communisme, c'est-à-dire des deux formes de capitalisme, celui qui est privé et celui qui est d'État, a totalement secoué ce qui était la grande idéologie à gauche à l'époque. Et l'effondrement d'abord du mur de Berlin, puis de l'ensemble du système communiste, est une conséquence claire de mai 68. Alors, on va me dire, mais et le capitalisme, lui, ça n'a pas bougé. Eh bien, d'une part, moi je pense très 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 profondément que, contrairement à ce qui est répété aujourd'hui par l'extrême gauche, le capitalisme s'est aussi effondré, mais qu'on ne s'en est pas rendu compte de la même manière. Ou plus exactement, on ne s'en est pas vraiment rendu compte. En fait, le capitalisme ne s'est pas effondré comme le communisme s'est étalé, a disparu. Il s'est fait bouffer par un autre système. Par un système qui est son fils, on peut dire. Alors on l'appelle aujourd'hui l'ultralibéralisme, on l'appelle comme on veut, mais à la grande différence du capitalisme, il ne repose plus sur l'exploitation du travail. C'est-à-dire les grandes richesses aujourd'hui, qui autrefois se faisaient en exploitant le travail de ceux qui fabriquaient les biens et les services, aujourd'hui, il repose essentiellement sur de la spéculation, c'est-à-dire sur du vent. C'est très important ce changement parce que ça veut dire que, à gauche, dans ce qui a été le mouvement ouvrier, les réponses qui étaient apportées à l'agression capitaliste ne collent plus avec cette nouvelle forme d'agression. Et que notamment, ça ne se passe plus dans le monde du travail. C'est pour ça qu'on a vu s'effondrer le mouvement ouvrier, qu'on a vu s'effondrer les syndicats, qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui travaillent ne font plus un vrai travail, ils font une occupation qui arrive à les nourrir, mais souvent sans motivation. Autrefois, on était très fiers d'être même un ouvrier mal payé. Les petits artisans, ces gens faisaient un vrai travail. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des jobs et ne font pas vraiment un travail. Alors ça veut dire qu'à gauche, ça a changé aussi. Et que donc, les formes de lutte qui existaient ne sont plus opérationnelles. Donc il faut un nouveau mouvement politique pour répondre à ça. Alors pourquoi je pense très fortement que l'écologie politique est ce mouvement-là? C'est que C'est un mouvement qui est d'abord neuf, c'est la seule idée politique forte née au XXe siècle, il n'y en a pas d'autre, le capitalisme et les mouvements socialistes datent du XIXe au plus tôt, et qu'il n'y a pas eu d'autre grande force qui est apparue. Pourquoi il y a eu tout à coup un petit boulevard qui a permis à l'écologie de creuser son trou? C'est que l'axe gauche-droite, aujourd'hui, ne répond plus à la vraie problématique des citoyens dans la société. C'est-à-dire qu'autrefois, c'était assez simple, on était d'un camp ou de l'autre, on était plutôt du camp des patrons, plutôt des camps des exploités. Maintenant, l'ensemble des problèmes qui se posent aux gens ne se placent plus sur cet axe. Ça ne nous dit pas si, par exemple, on est en faveur de la construction européenne ou pas. Ça ne dit pas si on est en faveur d'une société plus diversifiée. Ça ne dit pas si on est pour telle et telle mœurs. Il y a plein de questions qui autrefois étaient réglées par le fait qu'on était sur l'axe gauche-droite et qui aujourd'hui ne le sont plus. Et moi, ce que j'espère, c'est que l'écologie politique, c'est vraiment le lieu où ces questions nouvelles peuvent être résolues, ou en tout cas où on peut trouver des pistes qui permettent de les résoudre. Alors, concrètement, en 68, dans mon bouquin, j'ai essayé de repérer où étaient, disons, les plus anciens des figures de l'écologie politique, où étaient un certain nombre de gens qui ont été, ou qui sont encore, des dirigeants verts, où est-ce qu'ils étaient? Parce que bon, beaucoup, l'immense majorité des verts étaient trop jeunes pour avoir connu 68, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont, allez, disons, la soixantaine, et qui ont connu 68, donc où ils étaient? Alors c'est très 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 amusant, parce qu'évidemment l'écologie politique n'existe pas à ce moment-là. Alors, ils sont soit engagés dans le mouvement sans forcément avoir une carte dans la poche, mais il y en a d'autres qui sont des trotskistes purs et durs, il y en a qui sont au PC très staliniens, il y en a qui sont des Mao complètement presque caricaturales, il y en a qui sont au PSU, bien sûr, beaucoup, et puis il y en a qui sont alors dans les comités lycéens ou dans des petits groupes qui sont sur des combats spécifiques pour les droits des femmes, pour les droits des homosexuels, pour les droits des immigrés, pour toutes ces luttes parcellaires qui vont naître de 68. Et d'ailleurs, c'est dans ces mouvements-là que beaucoup des futurs Verts vont militer. Quand on fait la biographie de ceux qui ont fondé les Verts, c'est très intéressant de voir que ce n'est pas des gens vierges, ils déboulent pas comme ça, même s'ils sont jeunes. Même Dominique Voynet, qui est un peu jeune pour avoir connu 68, elle est déjà engagée en 68 dans son lycée, etc., comme Martine Billard est dans les comités lycéens. C'est très intéressant de voir, pour l'histoire de l'écologie, quand on explique que l'écologie n'est pas née d'une idéologie, n'est pas née de la pensée d'un gourou, n'est pas née d'un texte fondateur, n'est pas née d'un groupe de personnes, mais d'une série d'initiatives, de pensées, de petits mouvements qui petit à petit s'aperçoivent qu'ils ont des choses à ficher ensemble et que tout ça commence à s'amalgamer, à s'accrocher, à se confronter pour arriver au grand corpus d'idées qui est aujourd'hui celui de l'écologie politique et qui est celui de l'écologie politique dès 1983-84 à la Fondation des Verts. Ça, c'est très 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 intéressant. Et c'est très caractéristique de la constitution de l'écologie politique en France, parce que dans d'autres pays, ça ne s'est pas forcément passé comme ça. Je prends souvent l'exemple de la comparaison avec les Grünen, qui naissent à peu près à la même époque, grosso modo, mais qui naissent dans un pays où il n'y a pas de parti communiste, puisqu'il est interdit. En France, en 68, le PC, il est entre 15 et 20% de l'opinion. Donc c'est une force à gauche extrêmement forte. Et puis après, le Parti Socialiste va se développer. Mais en Allemagne, le fait qu'il n'y ait pas cette force à gauche va orienter l'écologie politique comme grande force de gauche. Ce qui n'a pas été le cas en France, c'est pas du tout né de ça. D'ailleurs, je rappelle que tous les premiers écolos, que ce soit autour de Brice Lalonde, puis après des Verts et de l'époque Antoine Wechter, ils sont tous sur la position du nini, c'est-à-dire ni gauche ni droite, nous ne sommes pas un mouvement de gauche, nous ne sommes pas un mouvement de droite, et que c'est seulement à partir du moment où grosso modo, où les Verts au pluriel prendront un peu le pouvoir en poussant Dominique Voynet et Yves Cochet, que l'idée d'un partenariat privilégié avec la gauche, et en aucun cas avec la droite, se fera jour dans l'écologie. Mais c'est pas gagné d'entrée. Donc ça montre bien comment chaque pays est obligé d'inventer son écologie politique, ce qui fait d'ailleurs que parfois au sein du parti écologiste européen, on arrive à des divergences qui sont de l'ordre du grand écart, quoi, entre des gens qui sont pro-nucléaire et d'autres qui sont anti-nucléaire, des gens qui sont très anti-gauche et d'autres qui sont au contraire, qui se perçoivent comme une partie de la gauche. Ce n'est pas toujours facile. Mais je pense qu'on n'en est qu'au début de cette progression. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que deux luttes qui étaient des luttes de terrain, soit des luttes environnementales, y compris dans des associations de protection de la nature ou de défense des animaux, deux luttes qui, parcellaires qui étaient dans le domaine du social, qui étaient des luttes plutôt classiques de la gauche et de l'extrême gauche, deux luttes qui étaient des luttes citoyennes, notamment pour la défense d'un certain nombre de minorités, va arriver une convergence qui, petit à petit, va structurer des premiers mouvements écologistes dans les débuts des années 80, fin des années 70, début des années 80, et que tout cela va amener petit à petit la constitution de l'écologie politique et de la structurer autour d'un parti politique qui va être les Verts. Toute cette évolution est extrêmement intéressante, mais personne n'aurait pu imaginer de concevoir un plan ou une stratégie pour arriver à ça. Ça s'est fait spontanément, tout seul. Pour ça d'ailleurs que l'écologie a gardé cette puissance libertaire qui est celle de quelque chose qui s'est construit sans chef, sans leader, sans grand gourou, sans texte fondateur. Le texte fondateur des Verts sont totalement oubliés aujourd'hui. Et que ça fait de cette force politique quelque chose de très atypique dans le paysage politique français, puisque c'est la première fois dans l'histoire de France qu'un mouvement politique s'installe dans le paysage de cette façon-là.